Il est présentement 8h30. Vous êtes à l'actualité ne prend pas congé. Moi, tu trouves les bêtes de l'actualité ne prend pas congé. Ça faisait longtemps que j'avais entendu. J'ai trouvé
country.
Ouais, ça ressemble un peu à du country.
Country rock.
D'après moi, je m'en vais à la sauce têtue, là, avec Max Arouche.
Mais 23 décembre, moi, cette date-là me fait toujours penser à la chanson de Beaudommage.
Ben oui.
Je l'aime.
23 décembre.
Pour moi, c'est la meilleure chanson de Noël. Hey, si vous êtes sur les réseaux routiers, Jeff.
Oui.
Peut-être passer ailleurs que sur Laurentienne Sud. Ben, c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire, là, mais à la hauteur du poste de pesée avant le boulevard Jean-Talon, la voie droite est partiellement entravée. Il y a une panne à ce niveau-là de Laurentienne Sud. Alors, ça commence, c'est sûr. On voit un petit peu plus de gens sur les réseaux routiers.
Exactement.
Mais ça circule encore très bien et c'est une magnifique journée. Attention à la glace noire.
Oui, très belle journée. Justement, la météo, là, je le répète, c'est une journée quand même assez froide. On va être à moins 9 degrés au maximum, mais présentement, on est à moins 19. C'est possible d'averses de neige en fin de journée. Moins 6 pour le réveillon de Noël avec possibilité d'averses de neige et neige intermittente et moins 7 le 25. Donc, soyez prudents sur la route, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui presse. Vous n'êtes jamais en retard pour un réveillon de Noël parce que de toute façon, on fête tard. Fait que c'est pas grave. Prenez le 5-10 minutes de plus là, sur la route, justement, pour être prudent. Mathias, on apprenait hier, coup de théâtre, on apprend que ça va peut-être se régler à Post-Canada. Veux-tu nous rappeler la nouvelle avant qu'on passe avec Marc Rangé?
Peut-être enfin se régler. Là. Je pense qu'on est rendu à dire enfin 10 fois. Parce qu'on voit pas le bout de ce fameux conflit-là. Mais là, du côté de Post-Canada, on a conclu des projets de convention collective avec le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Ce qui va se passer maintenant, c'est un vote de ratification à des membres du syndicat qui aura lieu au début de 2026. Du côté du syndicat, on recommande aux membres de voter pour justement la nouvelle proposition. Donc, habituellement, quand le syndicat recommande de voter pour, les membres votent pour. Fait qu'on va peut-être finalement avoir un règlement de compte. Ce que cette offre donne en termes d'augmentation salariale, c'est 6,5% pour la première année, 3,5% pour la deuxième année, et par la suite, une hausse qui suit l'inflation pour les années suivantes, une entente qui serait en vigueur jusqu'en janvier 2029. Je tiens juste à rappeler la situation financière qui est difficile du côté de Post-Canada. Publié en novembre, là, on faisait état d'une perte avant impôt de 541 millions, la pire de l'histoire. Au début de l'année, l'entreprise a reçu un prêt fédéral d'$1 milliard. Ce prêt-là visait à dire « vous... on vous donne ce prêt-là, mais on s'attend à ce que vous toffez jusqu'en mars prochain, mars 2026. L'argent va être déjà épuisé à la fin de l'année. Donc, ça va pas du tout du côté de Post-Canada. Avoir une entente, ça aiderait, c'est sûr.
Exactement, puis ça permettrait justement d'aller plus loin dans la refonte de Joël Lightbound. Il est conseiller stratégique chez Ryan Affaires publiques et spécialiste en relations de travail dans les médias. On va le rejoindre à l'instant même. Marc Rangé, comment vas-tu, mon ami?
Hey, ça va très bien. Bonjour à Pascal, Mathias et toi.
Good. Marc, merci d'être disponible en ce beau 23 décembre. Est-ce que ça va enfin se régler à Post-Canada? Moi, pour moi, Marc, ils n'ont pas le choix de régler là, parce qu'à un moment donné, ça traîne depuis 2 ans. Puis l'organisation fait juste perdre de l'argent de façon exceptionnelle.
Oui, oui. Puis moi, j'avais été très sévère dans cette négociation-là par rapport au syndicat parce qu'ils ne prenaient pas acte des difficultés financières de Post-Canada. Tu sais, Mathias le disait, le prêt de $1 milliard là, qui n'est pas remboursé, puis je ne sais pas si le fédéral va revoir cet argent-là, mais c'était uniquement pour payer les salaires, le fonds de roulement pour l'année en cours. Fait qu'imagine-toi, là. Fait que c'était vraiment des difficultés qui étaient importantes. Puis il y avait un commissaire qui avait été nommé par le fédéral au début de l'année 2025, il a rendu un rapport au mois de mai, puis, tu sais, c'est une ligne là, où il dit « Post-Canada est confronté à une crise existentielle, elle est insolvable ou en faillite. » Fait que quand tu as un tiers neutre, puis il est très compétent, lui, William Kaplan, là, il est reconnu de tout le monde au Canada comme quelqu'un de qui connaît bien, d'ailleurs, Post-Canada, il a déjà agi en tant qu'arbitre. Fait que lui, là, quand il dit ça, c'est un signal, puis le syndicat a pris beaucoup de temps à allumer, mais... Il y a 2 mois à peu près, j'avais remarqué le ton avait changé parce que le syndicat à tous les jours à peu près critiquait Post-Canada, sortait des bulletins aux membres, mettait de l'huile sur le feu. Puis là, depuis 2 mois, c'était très, très tranquille. Fait que bref, ça, c'est une maudite bonne nouvelle pour les employés, pour les 55 000 membres, parce que l'urgence, c'était pas d'aller chercher des conditions de travail, le record, là, c'était de protéger les emplois. Puis ils seront pas tous protégés, évidemment, là.
Est-ce que vous comprenez la critique du public dans le dit dossier? On dirait qu'il n'y a personne qui sont nécessairement derrière eux. C'est une histoire de syndicat, c'est vraiment une histoire de conditions, puis les gens sont envieux ou...
Non, je pense pas que parce que les gens étaient envieux, c'est plus que le syndicat, je pense que la population l'a vu, là. Tu sais, t'es dans le trouble, t'as des emplois qui sont menacés, puis tu t'en vas faire la grève. Et à chaque fois que le syndicat a fait la grève dans ce cas-ci, puis je répète, là, Dieu sait que je défends le droit de grève, mais à chaque fois, ils perdaient des clients puis ils se faisaient mal eux-mêmes. Mmh. Parce qu'à un moment donné, la réputation de Post-Canada en 2025, c'est « vous êtes pas fiable, puis on va faire affaire avec d'autres entreprises ». Et c'est pour ça qu'il y avait urgence pour le syndicat d'allumer puis de se mettre en mode solution au lieu de continuer à dire que ben, Post-Canada a juste augmenté le prix des timbres puis on va revenir à l'équilibre financier. Non, non, ça prenait des changements de fond. Puis là, le syndicat s'est mis en mode résolution, mais ils se sont fait brasser à cage par leurs membres. Moi, je suis convaincu que la pression est venue de leurs membres pour dire là, ça va faire. Votre job, c'est de... On va avoir un job demain matin. Fait que là, à un moment donné, il faut opérer.
Oui, en effet, parce que moi, je connais des facteurs, des postiers, devrais-je dire, Marc, là, que justement, là, il y en avait assez. Puis de toute façon, on se le cachera pas, Post-Canada a perdu énormément avec cette grève-là, ouais. Notamment ouais. Dans la livraison de colis. Donc, faut, à quelque part, venir là, statuer et venir...
boucler
la boucle et surtout ouais. Venir stabiliser ce qui reste là, de c'est Post-Canada. Mal.
Ben oui, parce que la livraison de courrier, partout dans le monde, en Europe, là, c'est le cas, ils sont tous en train de revoir les services postaux, la livraison de lettres est en chute libre. Donc, c'est le colis qui est l'avenir. Et il fallait qu'ils ouvrent la flexibilité pour la livraison de colis la fin de semaine, le syndicat. Et là, c'est ce qu'ils ont fini par accepter. Puis, oubliez pas, là, Post-Canada, en plus, a de la concurrence interne, parce que Purolator, qui livre des colis, appartient à 91% à Post-Canada. Fait que c'est comme si Purolator agissait comme un parasite sur le Post-Canada pour venir chercher. Fait que le syndicat, il fallait qu'il allume là, à un moment donné pour dire « Hey, on va se mettre dans le game puis on va livrer, nous autres ici, on va livrer colis. »
Il y a beaucoup de gens qui sont dévoués, qui font bien leur travail. Post-Canada reste quand même un service quasi essentiel quand on voit des grèves ou au privé. C'est une façon quand même, bon, c'est sûr, c'est un peu ironique de le dire dans le contexte, mais ouais. Qui assure une pérennité de livraison, etc. Pas juste de lettres du genre « Je t'aime, mon amour », on n'est plus à l'époque de Don Juan, mais est-ce qu'on pourrait voir vraiment ce secteur-là mourir de sa belle mort? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui travaillent très, très fort encore puis qui sont un petit peu vus comme des lâches puis des gens qui ne devraient pas nécessairement avoir des conditions comme ils les demandent.
Bien, leurs conditions, évidemment, ils les ont négociées avec les années. Et puis moi, je pense que ce qui manquait, le plus gros problème, c'était qu'il n'y avait aucune flexibilité, à peu près pas de flexibilité. Là, ils ont donné de la flexibilité à Post-Canada pour être capable de servir et de bord, puis justement tenir compte qu'il y aura beaucoup plus de boîtes postales communautaires, tenir compte que la fréquence de distribution du courrier va beaucoup diminuer pour être en fonction de justement du volume de lettres à distribuer, puis vraiment s'en aller vers le colis, parce que ça aussi, partout en Europe, là, les colis sont en explosion. Donc, il y a de la business à faire là, mais il fallait que le syndicat s'ajuste à cette réalité-là avant, parce que le très grand danger, c'est que Post-Canada faisait face à une privatisation de ses activités les plus payantes, puis là, le public aurait été pris, entre guillemets pris, mais avec desservir les régions éloignées, c'est là où ça coûte très cher oui. À Post-Canada. Là. Fait qu'il fallait vraiment que le syndicat allume, puis je pense qu'il y a un examen de conscience à faire. Je suis convaincu que l'entente, parce que ça a pris un mois à faire les textes, hein, c'est mm-hmm. pas nouveau, ils ont eu une entente de principe il y a un mois, puis là j'avais peur que ça dérape, mais le syndicat recommande l'acceptation, ça va passer très fort.
Oui, vraiment, surtout que le syndicat là, justement le recommande, donc ce qui est très positif. Ouais. Marc, Mathias va nous lire selon la CSN quels sont les employeurs les pires au Québec.
Oui, la CSN qui ont sorti leur fameuse liste des pires employeurs du Québec, donc selon eux en 2025. Donc je vais commencer par le top 3. Pour eux, le pire employeur, c'est sans surprise pour moi la multinationale Amazon qui occupe la première place du podium. Pourquoi? Parce que le géant américain a mis la clé dans la porte de tous ses entrepôts mm-hmm. au Québec après des menaces et représailles de syndicalisation d'un premier centre au Canada.
En
Donc, les autres, ils ont dit, on veut rien savoir de ça, on ferme tout ça, puis on en parle.
Donc, c'est très comprenable.
Exactement. De ce côté-là, c'est quand même, surtout que c'est une centrale syndicale, c'est quand même comprenable. Par la suite, la deuxième place, c'est Béton Provincial. Rapidement, là, c'est une entreprise qui a fait l'acquisition de nouvelles usines et qui par la suite, 6 mois plus tard, a mis 50 employés en lock-out le 5 décembre 2024. Encore aujourd'hui, ils sont toujours en lock-out parce que les travailleurs refusent d'avoir un gel salarial de 4 ans et l'abolition de leur régime de retraite qui est exigé également. On va s'entendre, c'est quand même des demandes exagérées de la part de l'employeur ici également. Le troisième, c'est bien sûr Renaud Bré, là, que c'est bon, c'est ça, je pense que vous connaissez la saga, que ça fait plusieurs mois que maintenant la succursale a fermé ses portes. La raison, c'est que le libraire refuse de négocier autre chose qu'un salaire fixé à 15 sous au-dessus du salaire minimum. Donc, on veut garder sensiblement le salaire minimum du côté de Renaud Bré. Dans les mentions honorables et qu'on place dans les pires employeurs du Québec, puis ça, je pense que ça va faire sourciller quelques personnes, là. C'est la STM qui a eu plusieurs grèves au cours de la dernière année, qui a eu plusieurs conflits de travail, puis ça a fait énormément de bruit sur qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est nécessaire à la population. Est-ce qu'on peut partir en grève puis offrir des services seulement minimales? À quel point ça touche la population? Beaucoup de grèves du côté de la STM. Mais est-ce que c'est vraiment un pire employeur, du moins, selon la CSN? Oui. Oui.
Et justement, je voulais t'entendre là-dessus, Marc Ranger, parce que il y a eu énormément de conflits de travail à la STM. Ça a touché les usagers. Ça a même créé une crise politique avec Québec solidaire. Mais à la STM, les gens ont quand même des bonnes conditions de travail. Donc, de là, les mettre dans les pires, je trouve qu'on exagère du côté de la CSN. C'est moi qui se trompe?
Oui. Non, tu te trompes pas. On exagère. Puis c'est drôle, je souriais parce que un moment donné, j'avais fait une déclaration par rapport au conflit du syndicat de l'entretien CSN à la STM. Et on m'a attribué que j'avais dit que c'était des conditions de travail très généreuses. Évidemment, je ne dis jamais ça parce que c'est négocié. Mais j'ai pas repris parce que ça servait à rien, mais je peux te dire que la CSN a retenu ça, par exemple. J'ai été presque excommunié par certaines personnes. Mais moi, si j'avais un
ah bah, Marc Ranger, au cachot.
C'est dans les manifestations, là, on va voir des pancartes. On ne veut plus Marc Ranger.
Écoute, je vais vous faire une petite confidence, là. Même de mon ancien syndicat, au plus haut rang, à un moment donné, on m'a demandé, il y a quelque temps de ça, de ne plus utiliser mon ancien titre de directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Et c'est pour ça que je fais bien attention de ne pas le dire en ondes que je suis l'ancien directeur québécois du syndicat canadien de la fonction
publique. Faudrait pas, hein?
Non, c'est ça. Mais bref, ces personnes-là qui pensent ça, je les emmerde. Bon, j'ai pas dit ça.
Mais là, ça parle beaucoup quand même. Ça parle du fait qu'il y a un certain devoir de... Je vais utiliser le terme « gentil discrétion », mais c'est un peu démagogue, non?
Oui, puis moi, c'est pour ça que je l'ai déjà dit d'ailleurs à Jeff. Moi, quand j'étais à la direction, j'ai toujours été le même. Je n'ai pas changé. J'étais très, très critique quand j'avais des syndicats ou des individus qui partaient dans toutes les directions puis qui mettaient le feu puis qui n'étaient pas capables de l'éteindre. Je n'ai pas changé. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas parce que je commande que je vais changer. Fait que ça, là... Mais je reviens au conflit, là. STM, là. Attention avant de planter la Société de transport de Montréal. Premièrement, ils se sont entendus avec leurs chauffeurs, un syndicat de 5000 membres. Ils se sont entendus avec leur personnel administratif, syndicat de 1200 membres. Et à ce que je sache, il faut être deux pour danser. D'avoir près de 150 rencontres de négociations puis de ne pas arriver à terme, moi, je blâme les deux parties. Puis justement, dans ce conflit-là, l'entretien CSN, le syndicat de l'entretien CSN, a provoqué des grèves très rapidement, ce que justifiait le ministre. C'est comme si ça avait justifié le ministre Boulay d'arriver avec sa loi 14 pour encadrer de façon plus sévère le droit de grève. Tu sais, quand tu as des situations délicates politiquement, tu sais que le gouvernement arrive avec un projet de loi qui va faire mal, il faut se garder un petit peu de gêne. Là. Ouais. Et faire attention pour pas, pendant un mois de temps, juste avant l'entrée en vigueur de la loi, c'est ce qu'ils ont fait au mois de novembre, déclencher leur grève. Mais j'avais suggéré, il fallait qu'il arrête ce conflit-là au mois de novembre, puis le président Bruno Jeannot, quand même solide, il a arrêté sa grève. Mais j'irai pas, je suis pas d'accord avec la présidente de la CSN pour dire que c'est un employeur qui est un cancre, parce que si c'est le cas, on va faire porter le chapeau aux deux parties dans ce cas-là. Mais ils doivent revoir leur façon de négocier, ça c'est certain.
Marc Ranger, je termine cette excellente chronique avec cette question-là. En 2026, est-ce qu'on aura cette fameuse guerre sociale promise par Magali Picard où les syndicats vont se tenir à l'écart de ceci, là, compte tenu justement de la fin de 2025 qui a été difficile pour eux?
Oui. Moi, je pense que ça va brasser jusqu'au 1er mai. Pourquoi le 1er mai? Parce que c'est toujours les grandes démonstrations à chaque année. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait, les syndicats vont certainement tenter de faire une journée de mobilisation immense, peut-être des grèves, etc. Mais plus on va se rapprocher de l'élection après ça, plus les organisations syndicales vont probablement miser sur un changement de gouvernement. Mmh. Et ils vont falloir qu'ils fassent bien attention, pas que leur mobilisation alimente un parti qui souhaiterait pas avoir au pouvoir. Alors, tu sais, ça va. C'est pour ça que puis il y a tellement eu de conflits depuis 2 ans que avec les employés de l'État, c'est à peu près tout réglé. Fait que ce qu'on va voir plus comme conflit, c'est dans le secteur privé puis dans les villes, certaines villes comme à Montréal, l'école bleue, c'est pas réglé. Mais je serais très surpris qu'on voit le même niveau de conflit qu'on a vu dans les 2 dernières années. Par contre, ça va brasser dans les premiers mois parce que le projet de loi 3 qui revoit le régime syndical qui va imposer des contraintes importantes, lui, il continue d'être à l'étude en début d'hiver à la reprise de la session parlementaire. Et ça, mon opinion, c'est un très mauvais projet de loi et c'est pour ça que je pense que ça va brasser.
Oui, ça ressemble un peu le projet de loi 3. Je vais le dire comme ça, l'intention est noble au niveau de la transparence syndicale, mais ça m'apparaît aller trop fort et trop loin comme le projet de loi 2, la loi spéciale pour les médecins.
Bien, c'est parce que la transparence, le ministre Boulay l'avait déjà dans un projet de loi qu'il a fait adopter. Je ne me souviens pas si c'est 110 ou 112, où ça obligeait la production des états financiers. Fait que quand les gens disent transparence, non, le projet de loi 3, il n'y a rien à voir avec ça. Il va vraiment faire de la micro-gestion pour imposer des règles du jeu dans le fonctionnement interne des syndicats. Ça va très, très loin. Une double cotisation, un volet facultatif, alors que historiquement, je veux dire, l'action syndicale, elle est très large. Fait que c'est un gros, gros débat et c'est pour ça que ça va brasser parce que ça remet en cause les 40-50 dernières années où les syndicats se prononçaient aussi sur des enjeux sociaux. Puis c'est ça un peu l'équilibre du pouvoir, c'est d'être capable de faire ces interventions-là. Fait que bref, moi, je pense que ça va continuer à déclencher des hostilités pendant les 6 premiers mois de l'année.
Marc Anger, conseiller stratégique chez Ryan Affaires publiques et spécialiste en relations de travail dans les médias. Et Marc, nous, on adore t'avoir sur nos ondes, même s'il y a certains de tes anciens amis syndicaux, Pascal, qui ne veulent pas que Marc parle. Nous autres, on aime ça quand il nous parle. Je te souhaite des joyeuses fêtes. Profites-en bien. On recharge la batterie, puis on s'en reparle en 2026.
Écoute, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Puis vous le savez, je le dis souvent, même hors d'onde, j'adore être avec vous autres. Je me sens très, très à l'aise. Merci à vous.
C'est un privilège de t'avoir, Marc Anger. Allez. Merci à toi.
Salut. Salut à toute l'équipe.
Salut, Marc Anger. Salut, joyeuses fêtes. Marc Anger, spécialiste en relations syndicales. Donc, on retient ça, Pascal. Ça va brasser jusqu'au 1er mai avec le projet de loi 3, la commission parlementaire qui va continuer. Donc, on risque d'avoir du grabuge à la Magali Picard qui avait promis une guerre sociale. En souhaitant que ça reste quand même respectueux, parce que souviens-toi, c'était pas très respectueux sa sortie
la
commission parlementaire.
Puis on est un peu tanné, ça nuit beaucoup aux groupes syndiqués avec leurs revendications, cette attitude-là, ce ton-là. Je sais pas si on va voir les choses changer, mais ça aiderait énormément à ce que les citoyens, les citoyennes plaident un peu plus leur cause.
Mm-hmm. T'as entièrement raison. Je vais juste prendre l'exemple. On avait Sol Zanetti la semaine dernière dans Marceau le matin, jeudi dernier. Oui. Qu'on lui parlait justement de pourquoi il s'était prononcé en faveur des syndicats de la SM et non pas en faveur des usagers. Puis là, il nous expliquait l'importance du contre-pouvoir. Farnell Morrison nous l'explique souvent dans On en jase aussi. Je suis pas contre ça, mais c'est de la façon que ce contre-pouvoir-là est exercé.
Totalement d'accord.
Qui vient justement irriter les gens. D'ailleurs, si vous voulez réagir, 418-971-1021.
Puis justement, ça va être intéressant à observer du côté de la guerre sociale, parce que Magali Picard menace d'une guerre sociale. Le problème, c'est que l'opinion publique, présentement, n'est pas du tout de son côté. Et si le projet de loi 3 aurait été mis d'avant, déposé il y a de cela 5-6 ans, l'opinion publique n'aurait pas été autant favorable au projet de loi qu'elle est actuellement. La raison pourquoi la majorité de la population est pour un tel projet de loi, c'est parce que dans les dernières années, les syndicats ont abusé. Les syndicats multiplient des grèves une après l'autre, puis on voit des personnes comme Magali Picard qui ont des attitudes qu'on peut considérer arrogantes.
Elle aide en rien. Elle attire les foudres, puis c'est sûr qu'elle alimente le feu. Là.
Exactement.
Personne n'est de son bord.
Fait que je veux dire, comment tu fais une guerre sociale si la population n'est pas de ton côté? Mm-hmm. C'est un peu plus difficile.
Ouais, en effet. Après la pause, on va parler avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique pour l'Institut économique de Montréal. Il y a une forte opposition contre des parcs éoliens en Haute-Mauricie. Ça incite l'entreprise TES Canada à demander un plus gros bloc d'électricité pour sa production d'hydrogène à Shawinigan, prévu en 2030. Mais Pascal, je ne pensais jamais arriver là dans ma vie. On manque d'énergie au Québec, notre ressource première, notre fierté.
Ouais.
On en manque. On va parler de ça avec Gabriel Giguère. Comment ça, on manque d'énergie comme ça? Et est-ce qu'il y a des solutions alternatives? C'est ce qu'on va parler avec lui après cette courte pause à Boulevard 101. C'est l'émission L'actualité ne prend pas congé. L'actualité ne prend pas congé.